Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Steve Rivière. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Voir tout le monde, mais on peut tout faire pour prier pour vous et vous apporter Christ, afin que Christ soit formé en vous. Et c'est que Christ en nous qui fait la différence. C'est Christ en nous qui nous donne la victoire. Parce que mon cœur, parfois, pour certains d'entre vous, c'est de dire, Seigneur, pourquoi c'est si difficile pour certains? Pourquoi certains ont du mal à sortir d'épreuves qui datent de Mathusalem? Pourquoi ils ont autant de mal à sortir la tête de l'eau et à se dire, waouh, j'ai des combats dans ma vie, mais je suis en paix. Et je dis, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ton peuple, parfois certains, ont tant de mal? On a tous des difficultés, on a tous des épreuves, on a tous des défis à relever dans nos vies. Mais on a tous aussi le même Seigneur. On a tous aussi le même Saint-Esprit. On a tous aussi la même parole. Et donc on peut tous sortir plus que vainqueurs dans les difficultés de notre vie. Et en priant donc, le Seigneur m'a conduit à peut-être juste discuter, je ne sais pas si ça va, Saint-Esprit va conduire en prédication, en enseignement, mais une discussion pour continuer ce que le pasteur Bruno nous avait partagé la semaine dernière sur devenir un adorateur, sur ô combien il est essentiel de mettre sa présence au centre de nos préoccupations. Ô combien il est essentiel de considérer la présence de Christ. J'ai pas les mots. Seigneur, mets tes mots dans ma bouche. Fais comprendre à ton peuple ô combien sa présence est précieuse. Et on avait vu la fois dernière que ce qui nous différencie des autres peuples, c'est sa présence. C'est la présence de Dieu. Quand Moïse disait, je m'en vais pas, tu m'envoies, mais si tu viens pas avec moi, je m'en vais pas, parce que ce qui nous différencie des autres peuples, c'est toi au milieu de nous. Ce qui te différencie, toi et moi, des autres qui ne connaissent pas Dieu, c'est la présence de Dieu au milieu de nous, en nous. Et c'est ça qui est capital pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ou en quoi sa présence est aussi importante et pourquoi elle nous différencie. Pourquoi? On va lire un passage dans Genèse, chapitre 28, s'il vous plaît. À partir du verset 10 jusqu'au verset 18, pour essayer de comprendre. Et je me suis rendu compte, c'est parce que, vous savez, l'ennemi est impuissant contre Dieu. Vous donnez une réponse, l'ennemi ne fait pas la guerre à Dieu. Il fait la guerre aux hommes. Il ne peut pas faire la guerre. Dieu a déjà été vaincu. Dans le ciel, il a été jeté. Christ est aussi vaincu. C'est pas Dieu qui fait la guerre. C'est à ses enfants qui fait la guerre. Mais Dieu n'a pas laissé ses enfants sans armes. Dieu ne nous a pas laissés pour subir ses attaques et survivre. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour être plus que vainqueurs. Et sa présence nous rend plus que vainqueurs. Et pour ça, il faut bien comprendre qui nous sommes en lui. Je discutais avec un précieux frère dans la semaine et qui aime Dieu. Et mon cœur était brisé pour lui parce que on voit qu'il aime Dieu. Mais il avait du mal à se voir en Christ. Et il voyait que Dieu l'aimait, mais il avait dû voir ô combien Dieu l'aimait lui aussi. Et Dieu avait déjà accompli beaucoup de choses pour lui. Dans sa vie, pas uniquement en miracle, pas uniquement en restauration, mais dans l'esprit, dans son identité. En Christ. Et je crois que c'est un réel fléau pour l'Église de ne pas découvrir qui elle est réellement. L'apôtre Paul disait à l'Église d'Éphèse, plus grande Église de l'époque, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est le glorieux héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est la force toute puissante qu'il met à votre disposition en vertu de sa force. Je veux dire, sa force est sans limite. Il la met à notre disposition. Pas pour qu'on fasse tous les jours pitié, même s'il y a des coups durs dans la vie. mais nous a donné les moyens de s'en sortir. Et on doit réaliser ça. Donc Genèse 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Et je m'arrêterai là. Et le nom Bethel signifie « maison de Dieu ». Et ce passage est extraordinaire. Ici, on voit Jacob qui fuit la colère de son frère Ésaü et qui part chez son oncle Laban. Sur la route, il est fatigué, il dort. Il prend un caillou comme oreiller, c'est pas très confortable. Sa tête devait être dure, hein, dormir sur un caillou. Et là, il dort sur un caillou. Et il a un songe, il voit une échelle qui monte jusqu'au ciel. Et des anges descendent et des anges montent. Et l'Éternel en haut de l'échelle qui lui fait une promesse, qui refait la promesse qu'il avait faite à Abraham et à Isaac, qui refait à Jacob et dit à Jacob, je serai avec toi. Et Jacob se réveille et il est impressionné. Les anges qui montaient devaient être sûrement les anges qui avaient fini leur mission, leur service. Et les anges qui descendaient devaient être les anges qui allaient faire leur service. Amen. Et voilà que Jacob voit ça et il est impressionné. Et il se dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Jacob se dit, waouh, ce lieu est incroyable. Dieu est dans ce lieu. Et il donne une description de ce lieu qui nous intéresse, nous, profondément. Il dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Waouh! Et c'est la première fois dans les Écritures, qu'on parle de la maison de Dieu. C'est la première fois dans les Écritures ici qu'on parle de la maison de Dieu. Bethel, ça signifie maison de Dieu. Et ici Jacob décrit la maison de Dieu comme le lieu où il y a une échelle qui monte vers le ciel avec des anges qui descendent et des anges qui montent. Et ce qu'il dit est extraordinaire. Voici sa définition de la maison de Dieu. La porte des cieux. Et le thème de ce soir, c'est les porteurs de sa présence. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un porteur de sa présence. Si tu préfères, nous sommes des transporteurs de la présence de Dieu. Et ici, Jacob se dit, waouh, ce lieu est redoutable. Hey, c'est la maison de Dieu. Les anges montent et descendent. Ils accomplissent le service et la mission que Dieu, l'Éternel des armées, leur donne. Et il dit, c'est la porte des cieux. Waouh. Et on voit dans ce passage, où c'est le premier passage qui parle de la maison de Dieu, que la maison de Dieu n'est pas un bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment, c'est un petit rocher qui a dormi dessus. On peut dire la maison de Dieu, c'est l'assemblée, oui, pour nous. Mais lui, il est tout seul. Et il dit, ce lieu, c'est la maison de Dieu. Ce lieu est la porte des cieux. qu'est-ce qu'une porte ? Hein ? Pas de piège. Hein ? Une porte, il y a plusieurs définitions, mais pour nous faire comprendre une idée, est un lieu de passage. Un lieu qui ouvre ou qui ferme un environnement, une pièce, pour accéder à une autre pièce. Vous me suivez ? Et ici, il décrit l'Église comme la porte des cieux. Ça signifie que l'Église est le passage, le lieu qui ouvre et qui ferme la réalité spirituelle pour qu'elle pénètre dans la réalité naturelle. L'Église est la porte des cieux. Ça signifie que l'Église est le lieu de passage où ces deux réalités communiquent. La réalité de l'esprit et la réalité naturelle. Et c'est ça la porte des cieux. L'Église est la porte des cieux. C'est un lieu de passage qui permet à deux lieux de communiquer. Et c'est l'image que Dieu voulait lui donner. Dieu lui donne une image où les anges sortent du ciel, descendent sur une échelle. C'est bizarre, ils n'ont pas d'ailes. Vous pouvez voler. Et là, excuse-moi, attention, excuse-moi. Pardon, pardon, c'est une grande échelle comme un, plusieurs. Et là, ils descendent parce que Dieu voulait lui montrer que la maison de Dieu, comme il y a eu la révélation, est un lieu de passage. C'est une porte. C'est la porte du ciel sur la terre. C'est pas Star Wars ou Stargate. Pas besoin de regarder Stargate, la porte des étoiles. L'Église est la porte du ciel. L'Église est la porte du ciel. Et dans Jean chapitre 1, Nouveau Testament maintenant, à partir du verset 47, vous allez voir Jésus reprend ce passage. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël répondit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Tonnerre, et ce gars-là n'a pas besoin d'être convaincu beaucoup. C'est incroyable. Tout de suite, tu es le roi d'Israël, tu es le Dieu. J'ai juste dit un truc. Et Jésus lui dit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Ici, Jésus reprend le songe de Jacob. Et Jésus dit, « Maintenant, vous allez voir le ciel ouvert sur la maison de Dieu que je suis. Car je suis la porte, dit Jésus. Et c'est lui qui ouvre ou qui ferme. » Et Jésus se décrit ici comme la maison de Dieu. Dans le même chapitre, lorsque la Bible dit « Et la parole s'est faite chair et la parole a habité parmi nous », le mot « habiter » signifie « la parole est venue vraiment comme un tabernacle, c'est la maison. Elle est venue faire sa maison parmi les humains. » Voilà ce que ça signifie. C'est comme si Jésus disait « Je suis la maison de Dieu, je suis la porte du ciel. » Mais aujourd'hui, qui est la maison de Dieu ? Qui est la maison de Dieu ? L'Église. La parole de Dieu dit, vous êtes le temple. C'est toi et moi l'Église. C'est plus le bâtiment. Et là, on a une définition claire de qui on est en Christ. Tu es la porte. Hein ? La porte du ciel, capable de conduire les gens à Christ. Jésus a dit que nous sommes la lumière, que nous sommes le sel. Mais avant de dire ça, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Et après, il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Ensuite, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Jésus a dit aussi, allez dans les nations. Je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Jésus voulait qu'on poursuive et qu'on continue la mission que le Père lui a confiée. Oui ou non? Et s'il est la porte du ciel, il désire aujourd'hui que nous soyons aussi la porte. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais imagine le potentiel qui est renfermé en toi. Sur ta tête, il y a une échelle qui monte au ciel. Et là, il y en a qui me regardent et me disent, tu es sûr? Il y en a qui me regardent et me disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, Steve? C'est pas moi qui raconte. Ça parle de quoi? Ça parle de la présence de Dieu. Ça parle de cette connexion divine. Ça parle de la présence de Dieu que nous transportons. Ça parle de cette présence que nous pouvons diffuser aux autres. Ou pas. Ça parle de ça. Là où Dieu est, là est la porte du ciel. Et où est Dieu? En nous. Où est la porte du ciel? Tout compris. Ça y est, j'ai fini. Presque. Et c'est là que je me rends compte que beaucoup oublient ça. Parce qu'on a du mal à se voir comme la porte du ciel. On a du mal à se voir comme, avec cette capacité de se connecter à sa présence, comme jamais. Et pourtant, c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu désire qu'on puisse transporter sa présence. Tu es la porte. Vous savez, ce qui est marrant dans le contexte de Jacob, c'est que Jacob dit, Dieu était présent, je ne le savais même pas. Ça fait souvent le même effet lorsqu'on partage la parole ou lorsqu'il y a une célébration. Tu vois des gens touchés par exemple, un message et disent, ça c'est pour moi. Et l'autre à côté, à 10 cm, inerte, imperméable. En train de penser au match de l'équipe de France tout à l'heure. Et lui, il ne sait même pas que Dieu est par ici. Il dit comme Jacob, « Oh, je ne sais même pas que Dieu était parmi nous. »« Ah bon ?» Et l'autre à côté, il se voit comme la porte du ciel, connectée à Dieu. Il met ses défis dans son esprit et il poique ses défis un à un parce qu'il sait qu'il est en Christ. Et il confesse et il déclare et il libère la présence de Dieu. Il dit « Les anges descendent, les anges montent. » Et il a la foi. De quel genre de personne Dieu fait partie ce soir? Comme celui qui dit, est-ce que Dieu est parmi nous? Ah bon? Ou tu te vois comme celui qui transporte Dieu? Ceux, dites après moi, dites ceux qui transportent Dieu sont destinés à faire des exploits. On ne peut pas transporter Dieu et rien ne se passe dans nos vies. Il y a un souci. C'est pas possible. Daniel 11, verset 32 nous dit ceci. Et il fera pécher par la flatterie ceux qui porteront méchamment dans l'alliance, ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Le mot connaître Dieu ici, c'est le mot hébreu yada, qui signifie connaître intimement, qui signifie expérimenter, une relation profonde. Ça parle en réalité, c'est l'image, c'est le même mot qui était décrit dans la Genèse lorsqu'il est dit que Adam connut Ève. Ça parle de cette intimité-là. Et la Bible ici dit ceux qui seront intimes avec leur Dieu, ceux qui auront une relation avec leur Dieu, feront des exploits. À l'époque de Daniel, Il faut comprendre que ce verset-là est partagé. À l'époque de Daniel, il ne pouvait même pas connaître Dieu comme nous. Il n'avait pas Jésus. Il n'avait pas la croix. Il n'avait pas le sang de l'agneau. Il n'avait pas la résurrection. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Nous aussi. Et la Bible dit ceux qui expérimenteront leur Dieu. Ceux qui vont découvrir, ceux qui auront une relation intime avec lui, feront des exploits. C'est à l'époque de Daniel, ils ne pouvaient pas, ils avaient une image confuse de Dieu. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est l'image parfaite de Dieu. L'expression parfaite. Si vous préférez, Jésus est la théologie parfaite de Dieu. Il est l'image parfaite de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Tu connais Jésus, tu connais Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie. La résurrection et la vie. Et il a scellé une alliance pour vous et moi, par son sang, pour que nous puissions accéder et expérimenter et avoir une relation intime avec Dieu. Le concept à l'époque de Daniel de la présence de Dieu était un vieux souvenir. Comprenons bien ceci, vous allez voir où je vais en venir. À l'époque de Daniel, lorsqu'il dit « ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits », vous savez, le concept de la présence de Dieu, d'intimité avec lui, était assez rare. Ils étaient intimes avec la loi. Lorsque Dieu, des siècles auparavant, voulut être intime avec son peuple, à l'époque de Moïse, et qu'il voulait venir au milieu d'eux, ils ont refusé, ils ont dit à Moïse « non, toi, parle, nous on veut pas de lui ». Pourtant, Dieu se manifestait dans une colonne de nuée, une colonne de feu. Et ils ont connu la présence de Dieu comme ça, mais ils ne voulaient pas s'en approcher. Ensuite, il y a eu la présence de Dieu avec le temple de Salomon, où Dieu est venu aussi. Mais Jésus est le tabernacle qui est venu habiter parmi nous et qui maintenant vit en nous. Il est la maison de Dieu. Et aujourd'hui, la présence de Dieu ne doit pas être un concept abstrait. Quand on parle de présence de Dieu, il ne faut pas dire « oh, je suis un bon feeling ». Ce n'est pas ça. « Oh, je sens une douceur ». C'est plus que ça. « Oh, l'atmosphère est chargée d'amour ». Il n'y a pas que ça. C'est la présence de Dieu en nous. C'est Christ, Dieu lui-même, qui t'a choisi comme son habitation. Et qui place une échelle sur ta tête. Pour que lorsque tu pries, tu l'adores. Les anges montent et descendent. Pour te servir. Waouh! Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je dis yes, yes, yes. C'est bon. Je suis la porte. Et je vais ouvrir le ciel sur un peu. Dans le nom de Jésus-Christ. Le fait est que toi aussi tu peux ouvrir le ciel sur ta propre vie et sur la vie d'autres personnes. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Vous savez, souvent nous prions pour des choses que Dieu nous a déjà données. Souvent, nous ne réalisons pas ce qu'il a déjà mis à notre disposition et nous cherchons des choses que nous ne pensons pas avoir alors que nous les possédions déjà. Sa présence, tu l'as déjà. Et c'est ça que nous devons réaliser. Tu es la porte. Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. C'est la première définition de ce que signifie la maison de Dieu. La maison de Dieu signifie la porte des cieux, le lieu de passage où les anges arrivent, montent et descendent pour faire ce que Dieu recommande. Et aujourd'hui, nous, dans la nouvelle alliance, nous devons comprendre que connaître Dieu, c'est avoir une relation intime avec lui. C'est avoir une relation réellement profonde pour faire des exploits. C'est épouser sa présence. Car on a compris que la présence de Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fera la différence. Parce que nous sommes sa maison, qui transportons sa présence, destinée à faire des exploits. Comprenez bien ceci. Jésus est 100% homme, mais Jésus est 100% Dieu. Jésus pouvait de lui-même manifester la puissance, mais il a choisi de se limiter dans son humanité afin de mettre sa confiance en Dieu le Saint-Esprit pour nous servir d'exemple et en Dieu le Père afin de nous servir d'exemple pour qu'il triomphe non pas en tant qu'homme, mais qu'il, non pas en tant que Dieu, mais qu'il triomphe en tant qu'homme. Si Dieu avait triomphé en tant que Dieu, on aurait été fini, plus d'espoir pour nous. On aurait dit perdu, on n'est pas Dieu. Mais si Jésus-Christ a triomphé en tant qu'homme, alors yes, il y a de l'espoir pour toi et moi. S'il a surmonté l'offense, s'il a surmonté les peines, s'il a surmonté la méchanceté, s'il a constamment triomphé du mal par le bien, s'il a pardonné à ceux qui ont fait du mal, s'il a toujours aimé, c'est que toi et moi aussi, on peut toujours aimer. En tant qu'homme. Jésus nous a montré l'exemple. Là, il dit, vous verrez le ciel. Et le ciel s'est ouvert lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et la Bible dit, celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus reçoit le Saint-Esprit. Et à nous, il dit à ses disciples, vous allez aussi recevoir le Saint-Esprit. Mais pendant 3 ans, Jésus était celui qui transportait le Saint-Esprit. Il était le seul homme qui transportait le Saint-Esprit. Et il montrait les exemples à ses disciples. Et il leur donnait l'autorité, la puissance. Et après qu'il est monté au ciel, il dit, mais il est bon pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je parte. Parce que je vais vous envoyer le Consolateur. Il est comme moi, le conseiller. C'est bon pour vous. Parce que comme moi, comme je vous ai montré le modèle, le chemin, l'exemple, comme moi en tant qu'homme, j'ai triomphé par la puissance du Saint-Esprit qui était sur moi, l'échelle. Et j'ai ouvert le ciel, comme moi j'ai été la porte. Attendez que maintenant je meure pour racheter vos péchés. Et quand vous allez être racheté de vos péchés, je vais ressusciter et monter à la droite de Dieu. Et je vais vous envoyer Dieu le Saint-Esprit. Et je serai en vous. Et au milieu de vous, vous allez recevoir l'onction. Vous allez recevoir sa présence. Et en tant qu'homme aussi, ce que j'ai fait, vous allez le faire. Et je vous dis même, comme je vais auprès du Père, vous allez faire de plus grandes choses que moi. Moi, je prends. Je dis Amen, Seigneur, je prends. Je crois. Et qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte? Boum! Il envoie le Saint-Esprit. Les 120 disciples reçoivent Dieu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils transportent Dieu. Et maintenant, ils sont des nouvelles créatures rachetées par le sang de l'agneau. Ils peuvent vraiment expérimenter Dieu, le connaître comme aucun autre homme, même pas Moïse. C'est choquant. Hein? Dans l'Ancien Testament. Mais ça, c'est ton privilège à toi et à moi. À chacun d'entre nous. De découvrir ça. Et on reçoit le Saint-Esprit. Et on porte Dieu, on transporte Dieu. Et Jésus nous a laissé ce modèle. Pour que lorsque on pense à lui, on réalise qu'il a triomphé en tant qu'homme. En ayant confiance en Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit qui lui avait donné la puissance. Et Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée. Comme vous m'avez vu triompher de l'ennemi en tant qu'homme, vous allez triompher aussi de Satan en tant qu'homme. Parce que je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit. Et il sera en vous. Et il sera au milieu de vous. Et vous allez crier « Abba Père !» Parce que vous serez des fils et des enfants nés de nouveau, rachetés par le sang de l'agneau. Vous bénéficierez de la nouvelle alliance, scellée par mon sang. Waouh! Et vous allez transporter Dieu, vous allez transporter ma présence. Vous allez être les portes qui ouvrent le ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Ouais. Parce que vous serez ma maison. Quand j'étais sur terre pendant 3 ans et demi, Jésus voulait dire que c'était moi la maison au milieu de vous. Mais Dieu avait un autre plan qui s'appelle son église, la maison de Dieu. Et il ne voulait pas qu'il ait lui tout seul un homme, Jésus-Christ, qui transporte son esprit. Il voulait qu'une multitude soit son habitation. Parce que le plan de Dieu depuis l'origine a toujours été de habiter au milieu de son peuple. Et maintenant, il est au milieu de nous. Et ce n'est pas pour qu'on fasse pitié. Même si c'est des moments difficiles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous transportons sa présence. Nous sommes sa maison, la porte du ciel. On est capable de faire la différence. Quels que soient tes soucis, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes défis, quelles que soient tes difficultés, quel que soit le besoin que tu as, quel que soit le miracle dont tu as besoin, Jésus-Christ est capable. Et il vit en toi. Et il est pour toi. Comprenons donc bien ceci. Sa présence, on doit la chérir et la cultiver dans nos relations intimes. Et c'est sa présence en nous qui nous permettra de faire des exploits. Ceux qui marchent dans sa présence sont destinés à faire des exploits. Pour actualiser Daniel à nos jours. Et Jésus-Christ a payé le prix fort, frères et sœurs, il a payé le prix fort, fort, pour nous garantir sa présence. Jésus a accompli beaucoup de choses pour nous. Malheureusement, par ignorance, par manque de foi ou incompréhension, etc., nous vivons sans considérer ou sans réaliser ce qui pourrait nous donner une percée dans notre vie maintenant et changer beaucoup de choses maintenant. Nous vivons sans considérer. Où nous ne réalisons pas. Il a fait beaucoup de choses pour toi et moi. Beaucoup de choses sont à ta portée. Beaucoup de choses sont à ma portée. Beaucoup de choses sont à notre disposition. Mais on ne réalise pas. On ne réalise pas. On croit que sa présence peut avoir une bonne sensation. Bonne atmosphère. Gloire à Dieu pour les sensations. J'aime bien. Gloire à Dieu pour l'atmosphère. C'est vraiment bien. Mais c'est pas tout. Tu es la porte. Tu es un porteur de sa présence. Jésus a payé le prix pour ça. C'est la promesse du Père. Ce que Dieu voulait nous offrir, c'est ça. Sa présence. Et quand on comprend ça, waouh, on comprend tout. Il a, dans son nouvelle alliance, il nous offre gracieusement. Vous imaginez, pour on ait accès à ça, on n'a rien fait. On n'a rien fait pour que personne ne se vante. Il a payé le prix. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est fait homme. Il est devenu homme et s'est fait serviteur. Il a appris l'obéissance jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Il était sans péché et mort pour nous et ressuscité pour qu'il puisse monter au ciel, nous envoyer le Saint-Esprit et que la promesse du Père soit accomplie. Et on a juste à dire, Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Tu me donnes le Saint-Esprit aujourd'hui. Et il nous offre gracieusement sa présence. C'est ce qu'il nous donne dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit, je relis pour vous Daniel 11, verset 32, mais la version Semeur. Si tu as la version Semeur 2000, c'est excellent. Par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'Alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Mais le peuple de ceux qui connaissent l'Alliance, qui nous accorde la présence, le Dieu de l'Alliance, celui-là, agira avec courage et fera des exploits. Vous savez, ce verset dit, mais ceux qui auront trahi l'Alliance. Et j'aimerais juste, pour terminer sur ces deux pensées-là, la première c'est celle-ci. Pour manifester la présence de Dieu, nous devons comprendre que Jésus a payé le prix fort. Même si elle nous est donnée gratuitement, nous avons aussi un prix à payer. Quel est le prix de cette alliance? C'est qu'il est mort pour nous afin qu'à notre tour nous puissions mourir pour lui. Le mot alliance est aussi traduit par testament. Lorsqu'on parle de testament, on parle en réalité de mort. Quelqu'un fait son testament parce qu'il va mourir. L'alliance est scellée par la mort de Christ. Et j'aimerais vous encourager à comprendre ceci. Il faut faire une différence entre l'alliance et un contrat. L'Église est une famille qui a fait alliance avec Jésus-Christ. Qui n'a pas fait une alliance avec une Église, qui a fait d'abord alliance avec Jésus-Christ. Pourquoi ça, c'est très très important pour comprendre que pour manifester sa présence, l'intimité, on a besoin de l'alliance. Parce que sans alliance, il n'y a pas d'intimité. Le jour du repas, la Sainte Cène, lorsque Jésus dit, prenez ceci, le pain qui représente mon corps en mémoire de moi, buvez ce vin qui représente mon sang en souvenir de moi, ceci est l'alliance nouvelle scellée pour vous. C'est uniquement après cette alliance qu'il a payé par le prix de sa vie que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons intimes avec Dieu. C'est pareil pour le mariage. Sans alliance, Dieu ne considère pas que l'intimité est légitime. Et c'est le problème qu'avait Judas. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment du repas, Judas arrive. Jésus est en train de rompre le pain. Et là, Judas s'en va. Il n'a pas fait alliance. Parce que Judas était quelqu'un qui voulait l'intimité sans alliance. Et là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que Judas, c'était un profiteur, un consommateur. Jésus, je te suis, je bénéficie de ta puissance, ton onction, tant que je peux tirer de toi. Quand les choses ont commencé à aller à l'encontre de sa façon de penser et de ses plans, il a dû se dire, oh, c'est cuit, c'est pas ce que je pensais. Et il s'est retiré. Et il est parti vendre Jésus. Je vous ai dit, moi je crois personnellement, là c'est juste une opinion, que Judas voulait faire bouger Jésus. Et qu'il avait vu que Jésus avait marché sur l'eau, parlé à la tempête. Il savait que Jésus avait la puissance. Jésus lui avait donné, lui et les disciples, la puissance pour faire les miracles et les signes prodiges. Judas avait ressuscité sûrement les morts. Judas avait guéri les malades. C'est pour ça que jusqu'à la fin, les disciples ne savaient pas c'était qui le traite. Parce que si c'était lui, il n'aurait fait aucun miracle, on l'aurait vu. Mais non, Jésus a dit, tout le monde, tous les disciples marchaient dans la puissance de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Judas n'a pas envie de l'alliance. Parce que Judas est un consommateur. Il marche avec toi tant que ça lui va, tant qu'il peut profiter de ça. Judas a une mentalité de contrat. Gagnant-gagnant. Et la mentalité du monde d'aujourd'hui, c'est ça. Un contrat de mariage, un contrat de ceci, un contrat cela. Je m'engage si j'ai un bénéfice. L'alliance, c'est pas ça. L'alliance, c'est meurs à toi-même. Un petit peu différent, vous voyez? Si tu veux créer des exploits, tu veux être cette porte que tu es déjà dans l'esprit, mais tu veux que ça se manifeste, tu veux que les anges montent et descendent, tu veux cette intimité, cette relation profonde, et que ceux qui vont connaître Dieu comme ça sont destinés aux exploits, tu veux ça? Ne maltraite pas l'alliance. Ne considère pas l'alliance de Jésus comme un contrat. Ou Seigneur, tu vois, je te rends service en venant à l'église. Je te rends service en étant pasteur. Je te rends service dans le groupe de louanges. Déjà, je travaille tous les jours. Alors, si je viens ce soir, tu devrais être content. Là, tu peux être sûr que la présence ne va pas trop se manifester. Parce que lui, il a payé le prix fort pour nous. La Bible dit qu'un seul est mort pour tous, afin que tous meurent pour un seul. L'esprit de Judas refuse la communion. Dans l'alliance, pour l'intimité, ça parle de communion. Ça parle réellement de s'offrir à Dieu et s'offrir les uns pour les autres. C'est une autre dimension. C'est une famille. C'est pas juste je donne un petit coup de main. C'est pas juste ça. Quand Jésus parle de communion dans l'alliance, il parle bien sûr de sacrifice, comme on le voit. Ça parle de sacrifice, mais pas uniquement ça. L'alliance, la communion, le repas des noces qui a scellé l'alliance, la communion, parle aussi de manger. Hein? Parle d'avoir faim. J'essaie de vous donner une image rapide de la communion. La communion est un repas dont il nous faut avoir faim. Et bien sûr, en cellule de maison, plusieurs le font, on le fait un petit peu plus de manière sporadique dans l'église, on le fait plus rarement dans l'église, mais on le fait souvent en groupe de maison. Dieu n'a jamais établi dans la parole de Dieu la fréquence, il a dit « faites cela en mémoire de moi », il n'a jamais dit tous les dimanches, tous les vendredis, ou tous les 15 jours, non, ou tous les jours. Tu peux prendre toi-même la communion avec Dieu tout seul. Dieu a dit « fais en mémoire de lui ». Mais ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire la communion, est symbolisé par un repas. Pourquoi la communion est symbolisée par un repas? Parce qu'il est en train de nous dire, si tu veux être intime avec moi, il faut que tu aies faim de moi. Il faut que tu aies faim et soif de moi. Si tu veux être intime avec moi, avoir faim de Dieu est un signe de bonne santé spirituelle. Avoir faim de Dieu est un signe de bonne santé spirituelle. Même dans le naturel, quelqu'un qui mange pas tout le temps, pas d'appétit. Le midi, j'ai pas d'appétit. Le soir, j'ai pas d'appétit. Dans 2, 3, 4 jours, comme ça, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il est malade, oui ou non? C'est que son âme va pas bien. C'est que soit il est en dépression, soit il a un souci, mais il a du mal à se nourrir parce qu'il est pas bien dans son être. Spirituellement, c'est pareil. Quelqu'un qui a faim spirituellement, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Quand Jésus prend le repas, il est en train de dire « Ayez faim de moi ». Si vous voulez, la communion, c'est avoir faim de Jésus, avoir faim de sa présence. C'est avoir faim, c'est un signe d'humilité qui dit à Jésus « J'ai besoin de toi ». Avoir faim, c'est « Seigneur, sans toi, mon ventre n'est pas plein ». L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, sans toi, il me manque quelque chose. C'est ça, avoir faim de lui. Avoir faim nous pousse à nous bouger et à dépasser nos limites. Jésus est en train de dire, écoute, aie faim de moi. Vous savez, quand quelqu'un meurt de faim, il a tendance à aller voler même s'il n'est pas un voleur. Ça ne veut pas dire qu'il faut voler. Mais sa faim le pousse à dépasser les limites. Que tu as faim de Dieu, alors tu dépasses tes limites. Ça te pousse à l'action. Si ce soir tu as compris le simple message, porteur de sa présence, tu es un porteur de sa présence. Et que tu réalises, tu découvres peut-être, ou encore plus pour certains, qu'au-dessus de ta tête, il y a une échelle. Que tu es une porte. Que Christ a payé le prix fort pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de sa présence dans la nouvelle alliance. Et qu'à notre tour, nous devons marcher dans cette alliance. Et que la communion, c'est avoir faim de lui. Et souper avec lui. Et comme le pasteur Bruno disait, dans le naturel, il ne faut pas manger pour avoir faim. Dans le spirituel, pour avoir faim, il faut manger. Ce que Dieu, Jésus veut nous dire, ça représente bien sûr la croix, son corps brisé, son sang, ça représente le feu de l'esprit, mais ça, Jésus est en train de dire, aie faim de ma présence, viens communier avec moi, je serai avec toi par le Saint-Esprit, si tu as faim de moi, tu vas dépasser tes limites, si tu as faim de moi, oh, tu vas comprendre que tu vas toujours dépendre de moi, si tu as faim de moi, tu seras en bonne santé spirituelle, je donnerai la parole de vie pour te fortifier, aie faim de sa présence. Sa présence fait toute la différence. Je terminerai là-dessus. Acte 4, verset 29. Quel que soit aujourd'hui, s'il te plaît, cher frère, chère sœur, cher visiteur, quels que soient tes défis, quels que soient tes déboires, notre cœur, pasteur Bruno, son épouse, mon épouse et moi-même, tout le staff, toute l'équipe, c'est que Christ soit formé en toi. c'est que tu réalises qu'en toi, il y a Jésus de Nazareth, le Messie, le Christ, et qu'en son nom, les démons fuient, et qu'en son nom, les malades sont guéris, et que le Saint-Esprit t'a été donné comme Jésus nous a montré l'exemple, pour que tu puisses transporter cette présence et faire la différence, et être cette porte où le monde spirituel communique au travers de toi par le monde naturel. Et quelles que soient tes difficultés, si au lieu de te trouver une solution à ta difficulté et il n'y en a pas, tourne-toi vers sa présence. C'est ce qu'on voit ici dans Actes. Lorsque les apôtres à cette époque, on veut réellement les sacrificateurs, veut les tuer, leur dit, si vous parlez encore de cet homme-là, c'est fini pour vous, c'est fini en martyr. Et là, ils ont une solution. Ils savent pas quoi faire. Et ils cherchent. Alors, la meilleure solution, c'est qu'ils prient. Et voici ce qu'ils disent. Ils disent, maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'aimerais vous faire remarquer une chose. Les dirigeants les menacent. Les dirigeants les maltraitent. Ils ont été frappés. Et je me suis dit, leur prière est bizarre. Parce qu'au lieu de prier en disant, Seigneur, stop leurs menaces. Seigneur, arrête leurs menaces. Tourne leur cœur en notre faveur. Parce que nous sommes tes enfants. Que les méchants deviennent gentils avec nous. Et que les méchants comprennent que nous, on n'est pas méchants. Et que les méchants comprennent qu'on veut leur bien. J'aurais pu prier comme ça. Ils ne demandent même pas à Dieu d'arrêter les menaces. Je suis impressionné. Moi, ça m'impressionne. Ils ne demandent même pas à Dieu d'arrêter leurs menaces, bec à l'inette. Mais qu'est-ce qu'ils demandent? Sa présence. Voilà ce qu'ils demandent. Sa présence. Ils sont la porte. Ils demandent sa présence. Et tu vois leur menace. Mais donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Qu'ils se produisent des signes, des miracles, des prodiges. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il leur renvoie une dose complète et pleine du Saint-Esprit. Il dit, à la pousotte. Waouh! Merci, Odia, a traduit pour Stéphanie. C'était, voici pour vous, pour sur Internet aussi. Voilà ce que Dieu dit. Quel est ton problème ce soir? Est-ce que tu réalises que tu transportes sa présence? Face à tes défis, est-ce que tu as dit à Dieu, Seigneur, plus de toi? Seigneur, malgré les difficultés, si j'ai plus de toi, je ferai des exploits. Seigneur, malgré les soucis financiers, si j'ai plus de toi, j'aurai la solution. Seigneur, même si mon mari ne croit pas en toi, même si ma femme ne croit pas en toi, même si mes enfants t'ont abandonné, Seigneur, même si je suis la risée de mes amis, plus de toi. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Saint-Esprit. Oh, remplis, Seigneur. Vois les défis de ma vie. Vois les challenges. Vois le travail à accomplir. Mais Seigneur, plus de toi. Voilà ce que je veux. Une chose que je désire ardemment, disait le roi David, ta présence. Et Dieu aime ce genre de prière. Et Dieu ne tarde pas à remplir ses enfants qui prient comme ça, de sa présence, parce que c'est un bon père. Et il dit, si vous, Père céleste, Père terrestre plutôt, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père céleste vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demande. Wow. Tu peux ressortir de ce lieu blindé par le Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est pas juste prier en langue. Oh. Ah bon, pasteur? Être rempli du Saint-Esprit, c'est quand tu débordes de sa présence. C'est quand cette échelle-là monte et descend, tu as une porte ouverte. Et quand tu déclares, les choses arrivent. Et se passent des signes, des miracles et des prodiges. Parce que tu es la maison de Dieu. Parce que Christ en toi est l'espérance de la gloire. C'est ça, être la maison de Dieu. Et là, tu te remplis du Saint-Esprit, de sa présence. Toi et moi, nous avons accès à ça. Il n'y a pas besoin d'être pasteur. Il n'y a pas besoin d'être leader. Il n'y a pas besoin d'être dans le groupe de louange. Il y a besoin d'avoir un cœur passionné qui a faim de communion avec Jésus. Qui a envie d'avoir plus du Saint-Esprit dans sa vie? Qui ce soir a compris, quels que soient ses problèmes, c'est qu'il lui faut plus du Saint-Esprit? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur? Dans la gloire, Seigneur. Dans la majesté, roi des rois. Amen. Frère et soeur, je n'ai pas fini en retard, mais j'aime vraiment bien mettre des claques à l'ennemi. J'aime détruire les œuvres du diable. Parce qu'on est appelé à détruire les œuvres du diable. Parce que je suis une porte qui libère le ciel par sa grâce. Et toi aussi, tu en es une. Et ce soir, avant de nous quitter, vraiment, j'ai juste deux paroles que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Parce que je crois que j'ai entendu beaucoup de guérisons ces derniers temps et je bénis le Seigneur. Levez la main ceux qui ont reçu un miracle de Dieu de guérison dernièrement dans ce lieu. Levez bien haut la main. Amen. Alors, ça faisait 4 ans. 4 ans et Dieu l'a guéri. Certains d'entre vous, c'est que le début. Que le début. Parce que Dieu est bon. Toi et moi, on transporte le ciel. Tu n'es pas un vaincu, tu es un vainqueur. Donc est-ce qu'on peut juste fermer les yeux un instant? J'aimerais juste qu'on se quitte, pas trop tard, mais sur cette parole. Parce que je sais que Dieu est bon. Et Dieu veut manifester sa bonté par des signes, des miracles, des prodiges et des guérisons. J'ai dans mon cœur une requête un peu particulière. Lorsque je priais dans la semaine, le Seigneur me dit qu'il y a des gens, quand le chikungunya est arrivé, vous avez été affectés, touchés par le chikungunya, et sévèrement pour certains. Et certains d'entre vous, il y a des séquelles qui sont restées. Et le Seigneur aimerait vous guérir ce soir. Si c'est votre cas, levez juste la main là où vous êtes, s'il vous plaît. Amen, 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 amen. Waouh. Tout ça. Je peux juste baisser la main. Et le Seigneur a votre guérison ce soir. Ce qu'il m'a dit qu'il veut vous guérir. Certains ont eu des problèmes dans les articulations, etc., etc. Mais le Saint-Esprit va passer dans les rangs dans un instant. Et il va vous toucher là où vous êtes. Et les guérisons arrivera. Notre quête, c'est... Il y a des gens dans ce lieu, vous avez des allergies, que ce soit à l'alimentation ou des allergies de peau. Et c'est fréquent parce que vous êtes allergique. Et Dieu aimerait vous guérir ce soir. Levez la main si c'est votre cas, s'il vous plaît. Waouh. Amen. Baissez les mains. Je demanderai à toutes les personnes qui ont levé la main pour les deux requêtes de prière de vous lever là où vous êtes. Un instant, s'il vous plaît. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Amen. Amen. J'aimerais demander s'il y a des leaders pas très loin de juste, si vous pouvez, vous passer à côté de ces personnes. Mettez vos mains sur ces personnes. Et j'aimerais juste prier pour vous avant qu'on se quitte. Parce que je sais que le Saint-Esprit va vous guérir. Dieu est présent dans ce lieu. Sa douce présence est là. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Que tous ceux qui sont levés pour une requête, mettez votre main sur votre cœur. J'ai prié pour vous. Père, dans ta parole, tu dis... guérissez les malades. Car en ton nom, les démons fuient. En ton nom, les maladies fuient. Seigneur, je prie pour ces personnes, pour que tous ceux qui sont atteints d'une allergie soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Et pour tous ceux qui ont eu les séquelles du chikungunya, soient maintenant totalement délivrés dans le nom de Jésus et guéris. Je lis maintenant toute maladie qui affecte ces personnes dans le nom de Jésus-Christ, car c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, Esprit de Dieu, maintenant, passe dans les rangs et touche, touche maintenant. Maintenant, 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 la guérison, maintenant, la guérison, maintenant, la guérison, dans le nom de Jésus-Christ. Touche, libère, maintenant, 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 maintenant. Saint-Esprit, que l'électricité de l'Esprit passe sur eux maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Touche, 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 Saint-Esprit, fais ton œuvre. Maintenant, maintenant, maintenant. Alléluia, alléluia. Touche, guéris, roi des rois. Libère. Par ta douceur. Alléluia. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, maintenant envahisse leur cœur. Que le prince de paix écrase Satan et ses œuvres sous ses pieds, dans le nom de Jésus. Amen. Si tu étais atteint du chikungunya et que tu avais un problème à l'articulation, que tu ne pouvais pas bouger, essaie de bouger maintenant là où tu es. Essaie de bouger maintenant. Quelqu'un, si tu avais des problèmes aux articulations, bouge maintenant, bouge maintenant, bouge maintenant, bouge, bouge, bouge maintenant. Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui ont besoin de bouger, bouge, 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 bouge maintenant, bouge maintenant. Qui a déjà senti une différence dans son corps? S'il vous plaît, levez la main. Ceux qui, pouvez vous mettre debout, ceux qui ont senti déjà une différence dans votre corps. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci. Alléluia. Dieu bénisse, madame. Amen, amen. Amen. Waouh. 5 personnes. Et je vous garantis, c'est que le début. Il y en a d'autres, vous allez voir, vous êtes délivrés de votre allergie. Parce que certains d'entre vous, vous avez senti la présence de Dieu vous envahir là où vous êtes. Qui a senti Dieu le toucher là où il est? Amen. Frères et sœurs, Dieu est bon. Je connais des frères qui ne mangeaient pas de poisson pendant des années et l'allergie est partie comme ça et maintenant tous les jours ils mangent poisson. Il y en a cette crevette, c'est des plaques rouges comme ça. Et on a prié et maintenant ils mangent de tout. Dieu m'a dit que certains d'entre vous là allaient être guéris des allergies et Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Dieu m'a dit ceux qui ont les séquelles du chikungunya, vous serez guéris. Et plusieurs se sont déjà levés. Alors acclamons encore une fois notre Seigneur qui est bon. Acclamons le roi des rois. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Amen.